Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur les ondes de Radio B pour une nouvelle émission de Socialement Vôtre. Aujourd'hui, on parlera de rencontres, ou plus précisément de la rencontre en travail social, avec nos quatre invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio trois étudiants en dernière année de formation d'éducateur spécialisé, Amandine, Alexandre et Salomé. Mais tout de suite, je laisse la parole à Sébastien Fournier, éducateur spécialisé et aujourd'hui formateur à l'ENSEIS de l'Ain.
Bonjour à toutes et à tous. Alors nous avons effectivement choisi d'aborder aujourd'hui la notion de rencontre pour cette émission. Il s'agit d'une thématique importante puisqu'elle est au cœur des relations humaines et qu'elle représente un véritable enjeu pour les métiers du travail social. Alors de fait, la rencontre constitue le point de départ de toute relation sociale. Il n'y a pas de fonctionnement en société sans la capacité des individus à s'entendre, c'est-à-dire à prendre le risque d'accueillir ce qui relève d'autrui, et à oser s'exprimer pour être compris en retour. La notion de rencontre, elle est donc fondamentale, mais elle reste très difficile à définir. On peut à la fois l'employer pour décrire deux personnes qui se croisent au détour d'une rue. Elle peut aussi venir souligner les premiers contacts, notamment les premiers mots échangés avec un interlocuteur. Et enfin, cette notion peut aussi renvoyer à une expérience relationnelle beaucoup plus intense, potentiellement troublante, susceptible de bouleverser les individus qui en font l'expérience. On parle de rencontres décisives, de rencontres amicales, rencontres amoureuses, ou même de mauvaises rencontres. Or, survient à l'exercice même des métiers du travail social, peut-on accompagner les personnes les plus vulnérables sans se laisser le temps de la rencontre? La relation d'aide peut-elle se tisser sans une reconnaissance mutuelle entre les professionnels et la personne accompagnée? Trois étudiants de troisième année en formation d'éducateurs spécialisés ont accepté de venir échanger sur cette thématique. Je vais leur laisser la parole dès maintenant afin qu'ils puissent se présenter.
Bonjour, moi c'est Alexandre, j'ai 27 ans, j'interviens en apprentissage dans une structure, un IME, Institut Médico-Éducatif, qui accueille des jeunes âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap, donc mental, psychique ou physique.
Bonjour, moi je m'appelle Amandine, je suis en apprentissage dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA, qui accueille des familles ou des adultes seuls pendant toute la durée de la demande d'asile, des personnes donc, qui sont en exil et qui viennent d'un autre pays.
Bonjour, je m'appelle Salomé, je suis en apprentissage dans un centre éducatif spécialisé qui accueille des jeunes garçons âgés de 13 à 18 ans. L'accompagnement peut se prolonger jusqu'à 21 ans maintenant avec l'accompagnement jeune majeur. Ce sont des jeunes qui, pour la plupart, rencontrent des difficultés personnelles, familiales ou psychiques.
Merci. Alors pour débuter cette discussion, une première question. Comment définissez-vous la notion de rencontre en travail social? Amandine peut-être?
Pour moi, la rencontre, c'est un peu le point de départ d'un accompagnement éducatif. C'est une rencontre qui ne se fait pas forcément la première fois qu'on voit la personne. Moi, j'accompagne des personnes qui ne sont pas dans une structure collective, qui sont dans des appartements individuels. Et donc, parfois, il peut y avoir un peu de temps entre deux rendez-vous. Donc, la rencontre, elle peut prendre encore plus de temps, voire plusieurs semaines à vraiment se faire. Et les personnes que moi j'accompagne dans le cadre du CADA, c'est des personnes qui viennent de pays très variés. Et la rencontre, pour moi, elle se passe aussi par le respect de nos différences, le respect de leur culture et de leurs coutumes, encore plus quand on va dans leur domicile. Donc ça peut être des personnes chez qui il faut enlever ses chaussures, certaines qui ne serrent pas la main pour qui c'est mal poli. Et je pense que quand on a pris le temps de vraiment échanger, d'apprendre à connaître l'autre et qu'on respecte l'autre dans ce qu'il est, ça peut favoriser cette rencontre et l'accompagnement qu'il y a par la suite.
Alexandre, pour vous?
Alors moi, effectivement, la rencontre, d'autant plus avec un public en situation de handicap, c'est d'abord accepter les émotions de la personne qu'on rencontre, donc être en phase avec ses émotions, être prêt à accueillir de la souffrance, des problématiques, mais aussi de la joie. On fait avec son savoir-être, son savoir-faire. C'est d'abord créer un dialogue, mais ça engage aussi la responsabilité quand on rencontre quelqu'un. Ce n'est pas juste une minute et après on le laisse. On rencontre quelqu'un dans sa particularité, avec son altérité. Donc ça engage la responsabilité qui va après se poursuivre dans un accompagnement ou au long terme.
Et pour vous, Salomé?
Du coup, moi, quand on a eu le thème de cette chronique, j'ai voulu prendre la question autrement. Et du coup, j'ai voulu vraiment laisser la parole aux jeunes que j'accompagne et savoir ce que c'était pour eux la rencontre avec un éducateur. Ça a été assez difficile pour eux de répondre parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de répondre à des questions qui sont aussi ouvertes. Mais de ce qu'ils ont pu répondre en tout cas, automatiquement, quand ils rencontrent un éducateur, ils vont chercher la ressemblance avec quelqu'un qu'ils connaissent, un voisin, un parent, un ancien éducateur. Et cette ressemblance, elle va aider ou non l'entrée en relation et donc va entrer en jeu préjugés ou stéréotypes favorables pour voilà, l'entrée en relation. Cette rencontre, elle est très importante pour eux. Elle va être vraiment très indicatrice de la façon dont ils vont s'entendre avec l'éducateur. Et ils vont se fier pour ça à plusieurs facteurs. La voix de l'éducateur, sa fermeté quand il parle, le langage corporel, ou alors des éléments qui sont donc indépendants de l'éducateur, comme celui que j'ai cité avant, la ressemblance avec un tiers.
D'accord. Au-delà de ces éléments de compréhension, quelles ressources mobilisez-vous afin de favoriser la rencontre avec le public que vous accompagnez, Salomé ?
Alors du coup, je vais commencer. Il y a un outil qui favorise vraiment la pré-rencontre, en tout cas, avec l'usager. C'est le dossier unique de l'usager, donc DU. Ce dossier unique de l'usager, il a été mis en place par la loi du 2 janvier 2002, dite loi 2002-2. Cette loi, elle a vraiment rénové l'action sociale et médico-sociale. Elle a permis surtout la transformation des accompagnements dans les établissements. Donc le DU, il a surtout deux objectifs. Favoriser la centralisation de l'information. Donc en fait, on va retrouver dans ce dossier unique tout ce qui est compte rendu, projet personnalisé, évaluation. En fait, tout l'accompagnement éducatif qu'a pu avoir l'usager avant va se retrouver dans ce dossier unique et ça va pouvoir améliorer du coup le suivi et l'accompagnement en offrant une vision globale et cohérente du suivi éducatif pour offrir un accompagnement adapté aux jeunes. Donc le DU, il est très important, c'est un recueil d'informations très riche et notamment pour moi en protection de l'enfance, le nom du champ c'est protection et du coup ça va permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour protéger le jeune ou parfois même protéger les autres jeunes, notamment si le jeune par exemple il est agresseur sexuel et donc il nous faut ces informations pour voilà, accompagner correctement le jeune. Après du coup là, cette pré-rencontre arrive la rencontre. Parfois les jeunes que j'accompagne ont une relation à l'adulte qui est difficile due à leur histoire de vie et du coup avoir une rencontre très frontale peut être difficile pour eux. Moi je travaille beaucoup avec la médiation. Donc la médiation, qu'est-ce que c'est? La médiation, ça vient du latin, mediatio, qui dérive du terme médian, qui signifie être au milieu ou intervenir entre. Et c'est vraiment un temps privilégié entre l'éducateur et le jeune. On va se regrouper autour d'une activité, jeu de société ou activité, pour entrer en relation. C'est moins frontal et du coup, ça facilite l'entrée en lien.
D'accord. Dans votre environnement professionnel, à vous, Alexandre?
Effectivement, moi je relance Salomé sur le fait d'avoir les informations de la personne, du jeune avant, d'autant plus qu'il y a la déficience, le handicap, ce qui permet aussi de connaître à ce que pas faire, à faire les particularités de l'autisme par exemple, ou même du handicap. Donc effectivement, on a les informations de la personne ou du jeune avant de le rencontrer. Donc c'est une première rencontre administrative, on peut dire. Moi, je vais m'appuyer sur les outils de communication qui permettent de rentrer en lien et de faire la rencontre. D'autant plus qu'un public, comme je disais, qui est trouble de spectre autistique ou qui a des déficiences. Je vais prendre l'exemple des pictogrammes, donc ces petites images qui font référence à la vie quotidienne, ça peut être jouer dehors, un pictogramme ballon ou activité peinture par exemple, qui sont à disposition du jeune, de l'enfant, et qui va lui permettre de faire la demande. Donc c'est comme ça qu'il va rencontrer l'éducateur ou l'adulte, il va prendre son pictogramme ballon et il va aller vers l'éducateur en lui demandant, il fait comprendre qu'il a envie de jouer dehors au ballon. Et pareil, l'éducateur permet de rencontrer, de rentrer en lien avec le jeune en disant si c'est pictogramme. Donc si l'outil n'est pas similaire, si l'outil n'est pas utilisé, la rencontre est difficile, le jeune peut se braquer, ne pas oser aller vers l'adulte. Et donc c'est vraiment un outil de communication qui permet la rencontre et la facilité, en tout cas dans le champ du handicap.
De votre côté, Amandine ?
Oui, Alexandre, il parlait d'outils de communication, en tout cas d'entrée en lien. Moi, j'accompagne des personnes qui ne parlent pas la même langue que moi la plupart du temps. Et donc, on se sert de la langue un peu comme un outil aussi de rencontre. Je pense à une dame que j'ai accompagnée pendant plus d'un an, qui parlait, elle, pashtou, qui est une langue d'Afghanistan, et avec laquelle j'avais vraiment du mal à rentrer en lien et à créer cette rencontre-là. Je la trouvais un peu froide, un peu distante. Et en fait, un jour, lors d'une visite à domicile, j'ai demandé à son fils, qui lui parlait un petit peu anglais, de m'apprendre des phrases en pashtou. Et donc, madame était en train de cuisiner des galettes afghanes. Et donc, j'ai pu lui dire en pashtou, votre plat a l'air délicieux. Donc, je ne saurais pas le redire aujourd'hui, j'ai oublié. Et en fait, madame, elle a souri. Ça a vraiment décontracté un peu l'ambiance qu'il y avait, qui était un peu tendue. Et elle a essayé de faire ce pas aussi vers moi en français, par le biais de son fils qui traduisait. Et sur nos prochains entretiens qui ont suivi, ça a été beaucoup plus détendu et madame a osé venir vers moi, a osé me poser des questions. Et on a pu se rencontrer donc, par la suite grâce à cet outil qu'est la langue. Et je pense qu'on ajuste un peu nos postures en fonction des publics et des personnes qu'on accompagne. Et là justement, pour aller à la rencontre, c'était de faire ce pas, d'aller dans la langue de cette dame.
Alors, dernière question. Hein. Enfin, avez-vous des éléments à ajouter concernant cette question de la rencontre en travail social ?
Je peux commencer. Moi, c'est qu'on, je trouve qu'on peut avoir des freins, effectivement, de par des instances ou institutions où l'enfant est placé, pas juste des enfants, Salomé, tu me diras si je me trompe, tu as qu'un problème avec son enfance. Mmh. Mais voilà, le cadre de la rencontre peut influencer. Voilà. Je vais être forcé, pas obligé, ou même pas prêt à accueillir des émotions d'une personne. Et moi, dans mon IME où j'interviens, effectivement, il y a la profession et l'âge aussi qui peut être un frein. Une personne un peu plus âgée, un éducateur un peu plus âgé a du mal à rencontrer une personne plus jeune, pas les mêmes communications, justement, les mêmes centres d'intérêt. Donc voilà, quelques freins qu'on peut rencontrer.
Okay. Quelqu'un d'autre ? Oui.
Moi, je travaille plutôt avec des adultes par rapport à Alexandre et Salomé. Et c'est vrai qu'on accompagne surtout des familles avec des enfants. Et on les voit un peu comme une seule entité. On crée un dossier pour la famille, on va dire. Et du coup, on oublie parfois qu'il faut aller rencontrer les 7 personnes, par exemple, de cette famille, individuellement. Mmh. Et que c'est des personnes différentes et uniques, et qu'il faut du coup créer 7 rencontres avec des fois des outils différents et des temporalités différentes. Donc prendre le temps d'aller à la rencontre de chaque personne vraiment qu'on accompagne à chaque fois.
Moi, je voulais préciser qu'en fait, on rencontre dans le cadre de notre travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention, surtout je pense quand on est jeune éducateur diplômé, de ne pas se laisser embarquer par la rencontre avec l'autre pour ne pas biaiser l'accompagnement et du coup se faire submerger par les émotions ou l'histoire de l'autre. Et on a un outil vraiment qui est formidable dans l'éducation spécialisée, qui est l'équipe et tous les échanges que cela induit. Et on va pouvoir avoir des temps privilégiés pour la réflexion, comme les réunions d'équipe ou l'analyse de la pratique, l'APP, où un intervenant extérieur vient pour permettre d'analyser certains temps ou situations éducatives.
La chronique est finie, je crois. Vous avez tout dit. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. En plus, on vous a mobilisé sur un temps de cours. Donc, on se retrouve en janvier pour une nouvelle émission qui abordera un thème pas très marrant, c'est la souffrance au travail. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio B.
Merci.
Merci. Merci.
Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS.